décryptage. Nathanaël Vitran.
Depuis des mois, la Corée du Nord semblait avoir fait sienne la devise olympique appliquée à son programme balistique et nucléaire. Plus vite, plus haut, plus fort. Les alertes aux missiles ont fini par se ressembler, invariablement suivies de condamnations de la communauté internationale. Et puis, un petit miracle s'est produit.
Following the wish of the two NCs.
Selon le désir des deux comités olympiques nationaux, le CIO a accepté que les deux délégations défilent ensemble sous le nom de Corée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang.
Thomas Bach, patron du Comité international olympique, annonçant que lors de la cérémonie d'ouverture de ces fameux JO d'hiver, demain, les deux délégations sud et nord-coréennes défileront sous un seul et même drapeau, celui de la réunification de la Corée. La diplomatie olympique peut-elle permettre un réel rapprochement entre Séoul et Pyongyang ou s'agit-il d'une simple trêve olympique? On en parle dans Décryptage, soyez les bienvenus. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Antoine Bondaz. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous enseignez également à Sciences Po. Merci d'être avec nous ce soir. D'abord, ce drapeau de la Corée unifiée qui doit servir demain de bannière olympique commune aux deux délégations, d'où vient-il et est-ce qu'il est souvent utilisé?
Alors, il est de temps en temps utilisé lors d'événements conjoints. C'était notamment le cas, par exemple, en 2000, 2004, 2006, pendant trois Olympiades au cours desquelles la Corée du Nord et du Sud avaient défilé ensemble. Ce drapeau blanc avec une Corée bleue symbolise évidemment une grande Corée. Cependant, vraiment, au-delà du drapeau, la question est politique. Est-ce que cette reprise du dialogue est temporaire? Est-ce que cette reprise du dialogue va déboucher sur des négociations intercoréennes? C'est pour l'instant peut-être un peu tôt pour le dire.
On va y revenir plus longuement sur toutes ces questions. D'abord, la Corée du Nord va envoyer 22 athlètes à Pyeongchang, mais aussi des stars de la chanson, des danseurs, des supporters. Quelle est la politique du régime nord-coréen quant à la participation à des événements sportifs internationaux?
Alors, la Corée du Nord participe à de nombreux événements sportifs internationaux et c'est une relativement bonne nation sportive. Aux Jeux Olympiques de Londres, par exemple, dans le classement des médailles, qui dépend des médailles d'or, la Corée du Nord était classée devant l'Espagne et même devant le Brésil.
Ouais, c'est surprenant, ça.
Donc c'est une nation importante. Il y a un effort historique qui a été fait et qui a été mis sur certains sports, notamment par exemple l'haltérophilie féminine, le taekwondo et d'autres sports. L'objectif pour la Corée du Nord, évidemment, étant de ramener des médailles et qui pourront à terme servir pour légitimer le régime. Bien évidemment, tout sportif gagnant une médaille, que ce soit aux Jeux Olympiques, que ce soit aux Jeux Asiatiques. On se rappelle par exemple qu'en 2014, aux Jeux Asiatiques en Corée du Sud, l'équipe féminine de foot nord-coréen avait gagné la médaille d'or. Voilà, c'est autant d'événements qui peuvent après en interne être utilisés par la propagande nord-coréenne pour vanter les mérites du régime et bien évidemment de son dirigeant.
Alors, ce qui est intéressant cette fois, c'est aussi que les deux Corées formeront une seule et même équipe de hockey sur glace féminin. Avant d'en discuter, je vous propose d'écouter le témoignage de l'ancienne capitaine de l'équipe de hockey sur glace de Corée du Sud. Sauf qu'elle est née en Corée du Nord et qu'elle a fui la Corée du Nord avec sa famille. On l'écoute.
Le hockey n'est pas populaire en Corée du Nord parce qu'il n'y a pas de patinoire. L'hiver, on répand de l'eau sur le sol, on met une barrière et puis on attend que ça gèle, c'est tout. C'est possible seulement quand il fait assez froid. C'est pour ça que le hockey n'intéresse pas les gens. 10 mois sur 12, nous nous entraînions en basket. Et franchement, les Nord-Coréens sont trop occupés à survivre. Il y en a peu qui s'intéressent au sport.
Alors, rencontré par notre correspondant en Corée du Sud, Frédéric Ojardias. Antoine Bondaz, on sait pourquoi ce sport a été choisi?
Alors, c'est une raison purement politique. Je ne sais pas pourquoi le hockey plutôt qu'un autre. Ce qui est important, c'est que cela a un impact politique important en Corée du Sud. Pour être très clair, une majorité de Sud-Coréens soutient la participation d'athlètes nord-coréens à ces JO. Mmh. Et une majorité de Sud-Coréens soutient même ce défilé commun sous la même bannière de la Corée unifiée. Cependant, une partie de l'opinion publique est beaucoup plus opposés et il y a une réelle polarisation sur la participation de ces joueuses nord-coréennes au sein de l'équipe sud-coréenne. Pour une raison simple, c'est qu'en Corée du Sud, on est d'accord avec la participation de la Corée du Nord, mais tant qu'elle ne se fait pas au détriment de la Corée du Sud. Et ce qui se passe sur l'équipe de hockey, c'est qu'elle se fait au détriment d'une partie des joueuses sud-coréennes.
Qui étaient qualifiées.
Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas accepté par une partie de la population. Et alors que Moon Jae-in, le président sud-coréen, a été très haut dans les sondages, la perte la plus importante de popularité depuis son élection en mai 2017, c'est à cause de cette affaire de hockey et d'équipe de hockey commune.
Alors on va revenir sur l'influence politique de cette décision pour Moon Jae-in. Cette réticence de la population sud-coréenne, elle en parle également, l'ex-hockeyeuse qu'on entendait tout à l'heure. Elle raconte aussi qu'en tant que joueuse pour la Corée du Sud, elle a dû affronter l'équipe du Nord en 2003 et que ses anciennes coéquipières nord-coréennes l'insultaient, refusaient de lui serrer la main. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque pour le régime de voir des citoyennes, du coup, en l'occurrence, participer avec d'autres, avec des joueuses sud-coréennes? Est-ce que ce mélange n'est pas risqué pour un régime qui est très fermé, qui n'aime pas les mélanges avec l'extérieur?
Alors, des citoyens nord-coréens interagissent régulièrement, certains citoyens nord-coréens interagissent régulièrement avec des étrangers, que ce soit en Corée du Nord ou à l'étranger. La question peut par exemple se poser, pour des questions de sécurité, soit assurer la protection des joueurs nord-coréens, soit s'assurer à l'inverse qu'ils ne feront pas désertion.
Parce que c'est arrivé ça dans le passé.
C'est arrivé dans le passé, donc très certainement, les joueurs qui ont été envoyés par Pyongyang, ont été choisis avec beaucoup d'attention par le régime. Ensuite, et encore une fois, ce qui peut poser problème en Corée du Sud, c'est l'idée selon laquelle il y aurait un passe-droit pour les athlètes nord-coréens ou un traitement de faveur. Pour ce qui est par exemple des Jeux paralympiques qui auront lieu en mars, le CIO a utilisé un droit particulier qui est d'inviter, en dehors des performances sportives, certains joueurs. Alors c'est utilisé fréquemment, ça n'a pas uniquement été utilisé vis-à-vis de la Corée du Nord, mais l'idée c'est qu'on va prendre des sportifs qui n'ont pas forcément le niveau, mais qui pour des raisons symboliques, des raisons politiques, mériteraient de participer aux Jeux Olympiques. Et cela, encore une fois, c'est quelque chose qui peut être critiqué sévèrement en Corée du Sud.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, qui a le premier tendu la main à la Corée du Sud. C'était à l'occasion de ses vœux le 1er janvier. On l'écoute.
En ce qui concerne les Jeux Olympiques qui sont organisés en Corée du Sud, ce sera l'occasion de montrer le rang de la nation coréenne et nous espérons sincèrement que ces Jeux se passeront bien. Si le Sud veut réellement la réconciliation et l'unité, nous restons ouverts à des discussions et des échanges avec tout le monde, y compris le gouvernement sud-coréen.
Elle a montré le rang de la nation coréenne, c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Antoine Bondaz. Qu'est-ce qui explique quand même ce revirement du régime nord-coréen après des mois de tensions, d'escalade verbale, notamment avec Donald Trump, après une multiplication de tirs balistiques? Pourquoi ce changement?
Il y a une double évolution du contexte en Corée du Sud et en Corée du Nord. En Corée du Sud, le retour au pouvoir des progressistes suite à l'élection présidentielle de Moon Jae-in en mai 2017 a fondamentalement fait évoluer la politique intercoréenne de la Corée du Sud.
Par rapport à Park Geun-hye, il y a des grosses différences.
Par rapport à Park Geun-hye et par rapport au président Myung-bak, sur un point extrêmement précis, l'amélioration des relations intercoréennes n'est plus conditionnelle à une avancée sur le programme nucléaire et balistique. Le programme nucléaire et balistique n'est pas un prérequis. Et donc il y a une dissociation partielle des deux sujets principaux, le nucléaire et le balistique, les relations intercoréennes. Ce qui a poussé notamment le président Moon Jae-in, dès juillet 2017, à Berlin, dans un discours extrêmement important, de tendre la main à la Corée du Nord. Et donc lorsque vous, tout à l'heure, vous avez évoqué la main tendue de la Corée du Nord, c'est plutôt la main tendue de la Corée du Sud, que le Nord a refusé de saisir pendant de longs mois, et que finalement le Nord a saisi le 1er janvier 2018. Et côté nord-coréen, il y a eu une évolution politique extrêmement importante, qui est ce dernier essai balistique, fin novembre, un essai balistique de ce qu'on appelle un Hwasong 15, qui potentiellement pourrait frapper l'ensemble du territoire américain. Et suite à cet essai réussi, Kim Jong-un a annoncé qu'il avait complété les forces nucléaires nationales. Alors certains l'ont analysé sur le plan technique. Évidemment, sur le plan technique, le programme nucléaire nord-coréen n'est pas finalisé, mais c'est en réalité la dimension politique qu'il fallait entendre.
Sur l'aspect de la dissuasion nucléaire, la Corée du Nord a atteint ses objectifs.
C'est ça, mais surtout une dimension politique qui est de dire, pour Kim Jong-un, premièrement, j'avais un objectif, je l'ai rempli, donc je suis légitime aux yeux de ma population. Et deuxièmement, nous considérons que notre programme est finalisé, donc nous n'avons plus besoin de réaliser des essais nucléaires et balistiques. Ce qui permet, en réalité, d'initier un gel de facto des essais nucléaires et balistiques, et donc de pouvoir saisir la main de la Corée du Sud, tendue par la Corée du Sud, et in fine participer à ces Jeux Olympiques.
Alors ça s'est fait quand même en soufflant un peu le chaud et le froid. Je ne vais pas passer l'extrait en entier, mais juste avant de dire on est ouvert au dialogue, on va participer au jeu, c'est formidable. Il rappelle quand même justement le programme balistique, le fait que désormais on peut frapper les États-Unis, que le bouton nucléaire est sur son bureau. Il y a toute cette partie du discours qui continue d'être très active.
Bien sûr, il dit notamment que la Corée du Nord doit produire en masse des armes nucléaires et des missiles balistiques. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne mentionne pas la nécessité de faire d'autres essais. Donc vous n'avez en aucun cas un gel du programme, vous avez uniquement un gel potentiel des essais. Mais ce gel des essais, il est suffisant, en quelque sorte, pour changer le contexte des relations intercoréennes et reprendre le dialogue, puisque ce dialogue n'aurait pas pu reprendre s'il y avait eu des essais nucléaires ou balistiques.
Comment cela a été accueilli par les États-Unis ?
Assez froidement dans les premières heures. L'administration américaine, en réalité, ne savait pas comment gérer cet appel nord-coréen, surtout que les Sud-Coréens l'ont tout de suite saisi. Et quelques jours ensuite a été organisée cette rencontre le long de la DMZ, dans
la ligne de démarcation, la Joint
Security Area, c'est ça, à Panmunjom. C'était la première rencontre depuis de longs mois, depuis en réalité 2016. Ce qui est très important, c'est que suite à cette rencontre, l'administration américaine l'a présentée comme la concrétisation de la réussite de la politique américaine, en disant que la stratégie de pression maximale portait ses fruits, puisque les deux Corées s'étaient retrouvées. Cependant, il faut être extrêmement précis. Ce n'est pas une réussite américaine pour une raison simple. L'objectif de la stratégie américaine, de la pression maximale, il est de pousser la Corée du Nord à revenir à la table des négociations. Mais des négociations nucléaire, pas du tout uniquement des discussions entre les deux Corées. Et donc, on a pour l'instant des discussions entre les deux Corées, mais on n'a en aucun cas des négociations sur le programme nucléaire. Et ça, c'est bien évidemment l'objectif de la communauté internationale.
Comment expliquer ce revirement sud-coréen, pour le coup? Parce qu'on a eu beaucoup... La Corée du Sud a participé à de nombreux essais militaires avec les États-Unis. Il y a eu... ils ont répondu, eux aussi, à leur manière, aux provocations de la Corée du Nord et de Kim Jong-un.
Alors, je dirais que c'est plus une évolution qu'un véritable revirement. Il y a un revirement sur la question de la gestion de ces deux thématiques, le nucléaire et les relations intercoréennes. Cependant, l'administration sud-coréenne aujourd'hui, elle est extrêmement claire. Il faut d'un côté des sanctions très fortes, et la Corée du Sud les met en œuvre comme le reste de la communauté internationale, mais ces sanctions doivent être associées au dialogue. Et c'est en réalité uniquement cette combinaison de sanctions et de dialogue qui, in fine, peut permettre de rétablir des canaux de communication et de relancer des négociations. Mais du point de vue sud-coréen, ce qui est très important, c'est que pendant 10 ans, entre 2008 et 2017, on a eu une détérioration progressive des relations, au point qu'en 2016, vous n'aviez plus de commerce, plus de coopération et même plus de dialogue. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de plus. Oui, il y a au moins la reprise du dialogue.
Un dialogue pour arriver à quoi? Qu'est-ce que concrètement ça peut changer? Parce que là, on est sur une période olympique très limitée. On parle des Jeux Olympiques, c'est du 9 au 25 février. C'est très court. Est-ce que ça va aller au-delà? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça aille au-delà? Et qu'est-ce que ça peut changer concrètement?
Alors c'est l'objectif de la Corée du Sud. C'est un pari de se dire que cette reprise du dialogue à l'occasion des Jeux Olympiques pourrait permettre in fine, premièrement, d'améliorer les relations intercoréennes par des événements extrêmement concrets. Et le président Moon Jae-in a listé plusieurs objectifs, notamment la réunion des familles séparées par la guerre de Corée de 1950-1953, mais aussi dans le cadre du 65e anniversaire de la signature de l'armistice de Panmunjom, qui aura lieu en juillet 2018, la mise en œuvre et la mise en place d'un système de gestion de crise le long de la zone démilitarisée. Ça, ce sont des objectifs extrêmement pragmatiques.
Par exemple, le fameux téléphone rouge qui avait été coupé.
Alors, pas seulement le téléphone, c'est-à-dire pas seulement des canaux de communication, mais véritablement un système et de gestion de crise, de management de crise, c'est-à-dire, en cas d'incident dans la DMZ, quelles sont les procédures?
D'ailleurs, si quelqu'un traverse, un Nord-Coréen ou un Sud-Coréen traverse la frontière, même par accident, pour éviter que ça dégénère, que ça escalade.
Exactement. L'objectif, c'est d'éviter qu'un incident n'escalade en conflit militaire, que ce soit dans la DMZ, mais aussi, on en parle beaucoup moins, mais c'est au final beaucoup plus important, le long de la zone de démarcation maritime. Puisque la zone de démarcation maritime n'a pas été fixée en 53, comme la DMZ, et donc il y a toujours une certaine ambiguïté sur cette zone maritime, ce qu'on appelle la Northern Limit Line, la zone de démarcation septentrionale maritime. Et c'est dans cette zone-là, par exemple, que vous avez eu le torpillage de la corvette Chonan en mars 2010, ou encore le bombardement de l'île de Yongpyeong sud-coréenne en novembre 2010 également.
Alors, je vous repose la question de tout à l'heure. Les Américains, comment vont-ils réagir si ce dialogue intercoréen, qui ne concerne donc pas directement le nucléaire, se poursuit? Est-ce que il y a eu des annonces de Mike Pence, je crois, vous me disiez tout à l'heure?
Exactement. Alors, Mike Pence est en ce moment même en route vers la Corée du Sud.
Le vice-président américain.
Exactement. Ouais. Vous avez en réalité deux lignes aux États-Unis. Une ligne qui est celle de la Maison-Blanche et celle du vice-président, qui est de considérer que le dialogue avec la Corée du Nord n'est pas forcément très utile, et qu'il faut que la Corée du Nord, entre guillemets, fasse des gestes extrêmement concrets pour montrer qu'elle veut se dénucléariser. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont beaucoup plus réalistes et beaucoup plus pragmatiques, dont notamment le secrétaire d'État Tillerson, qui considère que le dialogue est fondamental, et que la stratégie de pression maximale doit être couplée, encore une fois, à une reprise du dialogue pour pouvoir reprendre des négociations, qu'elles soient bilatérales, entre Washington et Pyongyang, ou multilatérales, avec par exemple la Chine, Washington et les deux Corées.
Alors Moon Jae-in, on l'a dit, prend un risque sur le plan intérieur. Beaucoup de Sud-Coréens ne soutiennent pas ce rapprochement. Il prend aussi un risque auprès des Américains. Il a quand même pris soin de dire ce rapprochement, alors je ne sais pas si c'était sincère de sa part, mais ce rapprochement, on le doit à Donald Trump. C'est un peu grâce à lui, histoire de l'amadouer.
Alors, ce qu'on a appris ensuite, c'est que Donald Trump avait demandé à Moon Jae-in de dire cela.
Ah, c'est une demande carrément de Donald Trump.
C'est une demande de l'administration américaine. Ce qui est sûr, c'est que la Corée du Sud fait un pari extrêmement important. Que Moon Jae-in, le président sud-coréen, s'implique énormément. Il déjeunera samedi midi avec la délégation nord-coréenne, qui est composée notamment du chef d'État de la République populaire et démocratique de Corée, Kim Jong-nam.
Juste en dessous de Kim Jong-un sur le plan hiérarchique.
C'est peut-être un peu plus compliqué que cela, mais qui est en tout cas le représentant officiel de la Corée du Nord dans les grandes cérémonies internationales. Mmh. Il s'était notamment rendu à Pékin en 2008 ou même à Sochi en 2014. Mais il y aura également dans la délégation Kim Yo-jong, la petite sœur.
Alors justement, effectivement, elle sera présente. Est-ce que ça permet de faire une lecture des jeux de pouvoir en cours en Corée du Nord, le fait que cette petite sœur de Kim Jong-un ait été envoyée?
Alors pas forcément les jeux de pouvoir, puisque c'est assez clair. La Corée du Nord est un système, est un régime dynastique. La famille Kim a une importance fondamentale et constitue l'épine dorsale du régime. Le fait que Kim Jong-un envoie sa petite sœur, Kim Yo-jong, qui est non seulement membre du parti avec un rôle important, puisqu'elle est notamment en charge de la propagande, c'est-à-dire concrètement l'organe qui va gérer le culte de la personnalité de Kim Jong-un en interne, mais elle est surtout sa petite sœur. Et pour un dirigeant nord-coréen et dans un régime dynastique, envoyer un membre de sa famille a une signification politique. Encore une fois, ce n'est pas Kim Yo-jong qui va négocier, mais en tout cas pour envoyer un message, de par sa présence même et ensuite par le message qu'elle aura à délivrer au président Moon Jae-in, cela peut avoir un impact sur les relations intercoréennes.
Ça veut dire que la Corée du Nord prend sérieusement ce rapprochement?
C'est-à-dire que la Corée du Nord, en tout cas, prétend prendre sérieusement ce rapprochement. Ce qu'il faut également rappeler, c'est que pour la Corée du Nord, l'objectif, c'est de faire diversion. Tant qu'on parle des JO, tant qu'on parle des athlètes, tant qu'on parle de Kim Yo-jong, on ne parle pas vraiment du programme nucléaire et balistique. Et le problème, c'est que celui-ci, comme on le disait en introduction, continue. Et que la menace, en réalité, du programme nucléaire et balistique nord-coréen n'est en aucun cas atténuée, en tout cas à très court terme, par cette reprise des négociations.
Merci beaucoup Antoine Bondaz d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences Po. Votre ouvrage « Corée du Nord, plongée au cœur d'un État totalitaire » coécrit avec Benjamin Decoing et paru aux éditions du Chêne. Merci également à Eleonore Krenik et au service documentation de RFI pour leur aide dans la préparation de cette émission. À la réalisation, il y avait ce soir Claude Battista. Merci.